RBA FM, Auvergne-Limousin.
RBA FM vous propose l'émission qui donne la parole aux associations du territoire, présentée par Raphaël.
Vive les associations, vive leurs actions, leur énergie, vive leurs salariés, vive leurs bénévoles. Nous parlons d'elles, nous parlons d'eux, dans Asso & Co. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Aujourd'hui, le studio auto d'Asso & Co est garé au parking du Foirail à Bord-les-Orgues. Il fait environ 3 degrés, hein, le froid nous est tombé dessus il n'y a même pas un jour. Et il pleut, et la lumière baisse, et voilà, mais il y a une bonne ambiance dans le studio auto avec Sophie Tissandier, secrétaire de l'association RABAP. Bonjour Sophie.
Et bonjour.
Alors, l'association RABAP, c'est l'association pour les recherches archéologiques et historiques Bord-Artense-Plateau. Voilà, donc Bord-Artense-Plateau, c'est-à-dire Haute-Dordogne, Nord-Cantal, Sud du Puy-de-Dôme et Haute-Corrèze. J'ai bon ?
C'est tout juste.
Voilà, donc cette association regroupe des gens passionnés par l'histoire, le patrimoine. Il faut savoir que les prospections sont menées en accord avec le service régional de l'archéologie de Limoges. C'est sérieux tout ça ? Et moi j'étais vraiment épatée de savoir qu'il y avait des activités d'archéologie là, tout près de chez moi, tout près d'ici, sur notre territoire. Et est-ce que les gens le savent finalement qu'il y a vos activités au RABAP ?
On a effectivement un petit souci avec la reconnaissance de l'association parce que on ne convainc qu'un public de passionnés en général qui cherchent à s'intéresser à leur patrimoine, leur histoire et à l'archéologie. Et pour se faire connaître et reconnaître, ce n'est pas évident. Donc on essaye de gagner et de travailler là-dessus, notamment avec notre site internet dont je suis un peu la gestionnaire principale. Mais également en organisant des manifestations pour tous.
Alors justement, vous faites de la prospection, vous recherchez des documents dans les archives, vous collectez des données. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement comme activité que vous proposez aux adhérents ou au grand public ?
Ça signifie mettre ses bottes. Et se préparer à marcher un petit peu dans les champs notamment. La prospection, c'est ouvrir grand ses yeux et se déplacer sur un terrain donné qu'on aura au préalable un peu préparé, c'est-à-dire qu'on va trouver du matériel archéologique, notamment après, quand le tracteur passe, des labours. Notamment des labours profonds. Donc après la fin des récoltes à cette période-là, c'est-à-dire fin septembre, début novembre, et aussi en période de grande sécheresse, donc fin d'été, sur par exemple des prairies qui auraient été finies d'être mangées par les animaux.
Donc sur ces terrains qui sont du coup presque nus, vous cherchez quoi ?
Des restes du passé. Des restes du passé qui vont se voir, qui vont avoir traversé les siècles, notamment ce qui nous concerne plus particulièrement à Rabat, puisqu'on est un peu spécialisé dans cette période, sur des morceaux de céramique, gallo-romaine notamment, ou alors plus anciennes ou plus récentes, donc plus anciennes, c'est-à-dire à partir de la fin de la préhistoire et du néolithique, et plus récentes, Moyen-Âge, voire la période plutôt moderne, hein, jusqu'au XVIIIe siècle. Aussi, on va trouver des pierres de construction qui vont rester, alors pas des énormes morceaux, mais il arrive de trouver des beaux petits moellons, donc des jolies pierres qui ont été arrangées. Hein. Ce ne sont pas des pierres qu'on va ramasser tout dans un champ comme ça. On va voir qu'elles ont été travaillées, mais qui vont être de petite taille, puisque sinon le paysan va l'enlever, parce que ça va le déranger pour cultiver son champ. Donc des pierres de petite taille, 5 par 5, 10 par 15, on va dire moins de 20-30 cm à peu près. Et puis, alors plus rarement, puisqu'on a un sol qui est très particulier ici, des pièces métalliques, des clous, si on a de la chance, des pièces, ça arrive. Et aussi des éléments de construction. Donc j'ai dit les clous en général, mais ça peut être des éléments de ferrure comme on trouve sur les portes anciennes encore. Ça se faisait déjà il y a 200, 300, 400 ans.
C'est un peu une chasse au trésor et du coup ça peut intéresser les enfants, j'imagine.
Alors effectivement, ça ressemble un petit peu à une chasse au trésor, mais c'est une chasse au trésor où on gagne vraiment, vraiment, vraiment pas à tous les coups.
En fait, vous faites donc des prospections archéologiques, mais quelles autres activités faites-vous ? J'ai vu pas mal de promenades de type patrimonial.
Alors, comme la prospection peut être un petit peu rébarbative et où, comme je vous disais, on ne trouve pas à tous les coups, effectivement, on essaye de s'organiser une à deux fois par an des sorties plus ou moins loin pour aller visiter le patrimoine autour de chez nous. Donc, la dernière sortie que nous avons organisée en septembre, nous sommes allés dans le Puy-de-Dôme visiter le site de Coran, qui est un site archéologique gallo-romain. Puis, ensuite, nous sommes allés sur le plateau de Gergovie. Et nous avons visité le musée de Gergovie, qui est un splendide musée. Et ensuite, nous avons fini par le musée départemental de la céramique de Lezoux, qui aussi est un musée sur un site archéologique très important de la période gallo-romaine, où on a, pendant plus de 300 ans, fabriqué le Limoges de l'époque, qui s'appelle la céramique sigillée de Lezoux.
Le Limoges, c'est la porcelaine de Limoges.
En gros, c'est une expression pour dire que c'était une très belle vaisselle de table avec énormément de modèles et qui était la même chez tout le monde. Bon, pas chez tout le monde, bien sûr, mais surtout chez les personnes qui avaient les moyens de se l'acheter.
Alors, quelles sont les prochaines activités proposées par le RABAP ?
Donc, l'hiver, on est un petit peu en sommeil parce que c'est un petit peu compliqué d'organiser des sorties de terrain. On se met dans un petit coin de la tête que dès qu'on voit un rayon de soleil, on peut prendre les bottes et puis aller sur les sites sur lesquels on travaille en ce moment. Mais sinon, on essaye de se retrouver une à deux fois par mois au local. Nous avons un local au centre culturel à côté de la piscine. On a un grand espace, rien que pour nous, au deuxième étage, où on a une bibliothèque, un espace d'exposition et où on se retrouve pour travailler, notamment pour préparer nos futures sorties, mais également pour inventorier ce matériel qu'on a ramassé en prospection et également pour continuer nos recherches sur d'autres thématiques parce que nous ne travaillons pas que sur ça.
Et vous travaillez sur quoi d'autre ?
En ce moment, nous sommes en train de préparer une publication sur l'église de Bort-les-Orgues. Suite à des recherches que notre président
Alain-Gilles Macdinier
a menées sur l'église par rapport à ses constructions anciennes. Donc il a fait tout un historique sur la construction de l'église depuis la pose de la première pierre jusqu'à nos jours. Et il s'avère que c'était à l'époque romane, une énorme église aussi grande que celle de Saint-Nectaire ou que de Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand. Il ne reste pas grand-chose de cette construction-là, mais on en trouve les traces dans l'église actuelle. Il avait fait plusieurs conférences, notamment deux à l'église, et là, du coup, on va sortir une publication qui va aussi parler des trésors qui sont dans cette église. Et également de l'orgue, qui est un très bel orgue. Et comme nous avons un partenariat avec l'association qui gère l'orgue de bord, Monsieur Turc, qui est le président de l'association, va publier un petit article sur l'orgue à l'intérieur de cette publication.
En dehors de cette publication, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet au RABAP ?
Lorsqu'on fait une prospection, on doit d'abord demander l'autorisation donc au SRA, au Service Régional de l'Archéologie, suivant l'endroit où on se trouve. Donc là, les dernières prospections que nous avons faites, c'était sur le site de Saint-Jean-de-Péchadoire, qui se trouve en Corrèze, sur le petit hameau de Ribérolles. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, tout au bout, après Monsieur Bricolage. On a travaillé au mois de juillet, au mois d'août. Et ce travail-là doit être converti en un rapport que nous devons rendre à Limoges. Un rapport qui prend beaucoup de temps à rédiger, puisqu'il y a une partie texte dans laquelle on explique ce que l'on a fait pendant les 3 semaines qui ont duré la prospection, mais aussi tout un rapport assez important de dessins, de croquis et de schémas. Et là, on va plus loin que le croquis, puisque notre président, qui est architecte de formation et qui a été très longtemps, qui a très longtemps exercé ce métier, a fait un relevé pierre à pierre des structures que nous avons identifiées. Donc, c'est-à-dire que à partir d'images, de photographies que nous avons faites des murs, il a dessiné ces murs pierre à pierre. Donc, c'est un travail assez important.
Énorme. J'imagine. Sophie, vous m'avez parlé hors micro d'un autre projet sur les fours à pain.
Vous savez bien que dans tous nos petits hameaux, il y avait un four à pain. Il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup qui sont très abîmés, voire en ruine. Nous connaissons tous un four à pain pas loin de chez nous. Ce qui est très intéressant avec les fours à pain, c'est que souvent, les personnes qui les ont construites, ont récupéré des pierres qui étaient juste à côté. Et souvent, on va retrouver des très belles pierres qui appartenaient à des structures beaucoup plus importantes. Donc, notre président a repéré un four à pain pas très loin de chez nous, qui a sûrement 2 pierres gallo-romaines qui ont été réemployées, c'est-à-dire on s'en est servi pour construire le four à pain. En partant de ce constat, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de valoriser le petit patrimoine, notamment ces fours à pain. Et on aimerait bien nouer un partenariat avec des personnes. On sait que de nombreuses associations font revivre les fours à pain dans les villages. Et pourquoi pas faire un partenariat avec ces personnes pour reconstruire, rénover, juste inventorier, c'est-à-dire savoir où il y a des fours à pain, comment ils sont construits et dans quel état ils sont. Mais bon, comme vous savez, tout ça, ça coûte un petit peu de l'argent.
Mais de l'argent pour quoi faire dans ce cadre-là, puisque tout est bénévole ?
Oui, mais du coup, un petit peu d'argent parce que il faut engager des travaux de maçonnerie, des fois, si on veut les remonter. Et puis après, c'est bénévole, mais du coup, à 2, c'est beaucoup plus difficile de soulever des grosses pierres qu'à 5, 6 ou 10. Donc, on manque de bras, bien sûr.
Bon, il faut des sous, il faut des gens. Voilà. Bon, à bon entendeur. Quels sont les besoins de l'association ?
On manque de bras, on manque de cerveau et on manque de reconnaissance. Donc, pour ces trois axes-là, on aimerait bien recruter des gens qui nous aident à réfléchir, à trouver de nouvelles idées, puisque en ce moment, on est vraiment axé sur l'archéologie et un peu moins sur le patrimoine. Donc, on aimerait bien avoir des personnes qui s'engagent un peu plus sur ce côté patrimonial. Quand on avait fait l'exposition photographique « Le patrimoine caché de bord », on avait été aidé par des personnes qui nous avaient dit « Ah, dans ma cave, j'ai un bout du rempart. Oh, venez voir, j'ai une très belle fenêtre à meneaux dans ma maison. » Vous voyez ? Donc, c'était le travail de plein de personnes en même temps. On avait eu l'aide d'un photographe qui nous avait offert les photos. Puis ensuite, on avait rédigé les textes et exposé les panneaux. Donc là, on aimerait bien faire une autre exposition sur une autre thématique, dans le patrimoine un peu plus en général, parce que comme je le disais au début, l'archéologie, c'est assez pointu, ça intéresse du monde, mais pas tant que ça.
On lance un appel et puis on le lancera aussi en fin d'émission pour un petit rappel, donc pour les personnes qui veulent participer à la prochaine exposition.
Voilà, tout à fait, ce serait bien. Et puis on manque un petit peu d'idées aussi. On essaye d'organiser des conférences un peu plus régulièrement, mais c'est vrai que pour faire venir les gens à bord, les orgues, avec une thématique qui pourrait intéresser beaucoup de monde, c'est compliqué.
Merci Sophie, vous êtes passionnée, ça s'entend, c'est super. Et on va faire une petite pause. Donc quelle chanson vous avez choisie pour faire cette petite pause en musique ?
J'ai choisi une chanson que j'aime beaucoup, qui parle un petit peu d'histoire mais pas trop, la chanson de Jean-Jacques Goldman, Tourne les violons.
fête au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux nobles, au noble sang de tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans, servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Le bel uniforme en le beau lieutenant, différent des hommes d'ici blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses. Manon s'émerveille en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Passent les années dures et grises à servir, une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les vieux. Elle y pense encore et encore et toujours. Les violons, le décor et ses mots de velours. Son parfum s'étend blanche les moindres. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons.
Retour dans le studio Otto Dassault & Co. avec Sophie Tissandier, secrétaire de l'association RABAP, l'association qui fait des recherches archéologiques et historiques à bord, en Artense, sur le plateau. Sophie, vous êtes passionnée, vraiment ça s'entend. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport à l'histoire, à l'archéologie, au patrimoine? Parce que vous êtes enseignante, enseignante référente en numérique, donc c'est assez loin du coup de l'archéologie. Qu'est-ce qui vous tient avec ces sujets-là, les sujets qui sont liés au RABAP? Pour cette question, Sophie Tissandier m'a répondu de chez elle. Et ce qu'elle raconte est vraiment très beau.
Quand j'étais petite, j'étais passionnée par l'Égypte. J'ai beaucoup regardé de livres, de films à ce sujet et j'aimais beaucoup ça. Quand je suis rentrée en sixième, il y avait une classe patrimoine. Et dans cette classe patrimoine, on nous a emmenés faire des fouilles archéologiques, mais sur la préhistoire. Alors, pour tout vous avouer, ça ne m'a pas trop passionnée au niveau de la préhistoire, mais par contre, l'aspect fouille m'a beaucoup plu. Tout au long de ce cursus de collège, j'ai continué à avoir des activités patrimoniales parce que j'avais une professeure qui était passionnée, professeure de français, que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup parce que je sais qu'elle est toujours enseignante. Et elle nous a emmenés en troisième à Pompéi. Et alors là, ce fut la révélation. Avec ma copine, mon amie d'enfance, nous nous sommes éloignés du groupe et on s'est un petit peu égarés dans les rues de Pompéi. Et je crois que j'ai vécu le moment le plus magique de toute ma vie. Voilà pourquoi j'ai fait ces études-là, pourquoi les Gallo-Romains, pourquoi donc cet amour de l'histoire et cet amour de cette histoire-là et de l'archéologie en général.
Alors pour rester dans le dans le registre des émotions, de l'enthousiasme. Je vais laisser la parole à Lilo la lectrice, qui va nous lire un texte de son choix.
L'éléphant sous la cendre. C'était en 1892, au bout des Limagnes, à 16 km sud-est de Brioude. Sénès semblait un village si tranquille que rien jamais n'avait pu y arriver. Sous les restes bucoliques d'un volcan de petit modèle, au fond d'un vallon en berceau, on trouva des ossements, mâchoires de hyènes auvergnates, crânes cornus de rhinocéros brivadois. Marcelin Boule, averti, entreprit quelques fouilles, et même intrigué par une curieuse protubérance du sol, il voulut s'y attaquer de ses mains. Un amas de cendres, sans doute. Mais pourquoi ainsi en coupole, et que recouvrait-il ? Il piocha, plein de curiosité et de précaution. Bientôt, quelle surprise ! Ce tumulus était le mausolée individuel d'un jeune éléphant. Manié avec prudence, la pioche dégageait presque intact le squelette. L'éléphanto s'était trouvé mis en conserve, comme un de ces jambons qu'on enrobe de cendres et qu'on coud dans une serpillière. Depuis tant de dizaines de milliers d'années, n'en demeurait que l'ossement. C'est de même que les savants ont retrouvé le massif central. À menu coup de pioche, ils en ont dégagé la longue histoire minérale, celle où de la substance terrestre sous le jeu des forces planétaires, elle a d'abord formé sa masse. Car sur cette terre au commencement, Dieu fit l'Auvergne, et puis plus rien, plus rien, plus rien, et puis le reste du monde. Extrait d'Histoire des gens d'Henri Pourra.
Alors Sophie, vous voulez réagir à ce texte ?
Il est très beau ce texte parce que en dessous des mots, on lit ce qui est très important dans l'archéologie, c'est-à-dire le lien avec la géologie. Souvent d'ailleurs, les gens confondent archéologie et géologie. L'archéologie n'existe parce que la géologie l'a aidé à exister. En fait, en cherchant les traces du passé, on va étudier la Terre comme un géologue va étudier une pierre. Dans ce texte, on a les recherches d'un paléontologue, en fait. Le paléontologue, c'est celui qui va découvrir les dinosaures. Ça, pour les petits, ça va leur parler. Là, on est, je pense, sur un squelette de mammouth.
D'éléphant.
Alors, ça m'avait fait penser plutôt à la découverte d'un mammouth. Mais effectivement, c'est un squelette d'éléphant. Et du coup, la paléontologie, c'est pas tout à fait la même chose que l'archéologie parce que c'est encore plus fort au niveau des émotions. Moi, je sais que quand il m'arrivait en fouille de trouver des os, j'étais pas à l'aise. La matière organique os, est très désagréable au toucher. Et il ne m'est jamais arrivé de fouiller des sépultures. Et je sais que si ça avait dû m'arriver, je pense que j'aurais été très mal à l'aise. Mais bon, là, c'est un point de vue très personnel.
Mais vous pouvez développer mal à l'aise. Pourquoi ?
Au toucher, je trouve que c'est très étrange. Et puis en plus, on trouve que des petites esquilles, hein, des petits morceaux qui sont restés longtemps sous terre, qui sont friables. Je sais pas, ça m'a toujours mise mal à l'aise de toucher les os. Puis ensuite, quand on sur un chantier archéologique, quand on s'occupe du matériel après la fouille, on lave ce matériel pour voir vraiment, pour enlever les couches de terre. Et du coup, laver les os, souvent, si c'était tout petit, ça commençait à s'effriter. Et voilà, je trouvais ça très étrange et très désagréable.
D'accord, une sorte de dégoût. Oui, oui. En tout cas, moi, dans ce texte, ce que j'ai retrouvé, et dans ce texte, et chez vous, c'est la curiosité, la minutie, la surprise, voilà, et l'admiration face à ce que l'on peut trouver. Donc, je trouve une grande proximité entre vous et finalement, comment s'appelle-t-il ? Marcelin Boule. On arrive à la fin, à peu près à la fin de cette interview. Sophie Tissandier, est-ce que vous pouvez me parler d'une association que vous avez envie de mettre en valeur ?
Oui, bien sûr. Je voudrais vous parler de l'association qui gère l'orgue de Bord-les-Orgues. Au bord des orgues, du coup. Non seulement parce qu'en ce moment, on travaille avec eux pour la publication de l'Église. Et puis, je sais qu'ils se démènent pour faire vivre leur instrument, parce que c'est un instrument de musique. Je sais à quel point il est beau, impressionnant et qui demande de l'entretien. Là, en ce moment, ils ont besoin d'argent pour le rénover, parce qu'il est, il a besoin de beaucoup de soins. C'est un objet fragile et précieux. Et je sais qu'ils se démènent pour faire vivre l'Église aussi, puisqu'ils font vivre l'Église quand ils organisent des concerts, des récitals et d'autres manifestations autour de l'orgue.
D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler les il y avait il me semble deux appels, l'un pour des participations des bénévoles pour organiser une prochaine exposition.
Oui, donc nous aimerions bien trouver des idées nouvelles pour pourquoi pas une exposition photo sur le territoire, donc avec une thématique sur le patrimoine et l'environnement autour de nous, en fait. Un sujet qui pourrait interpeller un peu tout le monde. Et puis aussi, donc, la thématique au niveau des fours à pain.
Voilà. Et si vous connaissez des fours à pain intéressants, signalez-le au RABAP. Donc, c'est l'Association pour les recherches archéologiques et historiques à bord, en Artense et sur le plateau. Merci beaucoup Sophie. Et puis on peut retrouver vos actualités sur le site Facebook RABAP. Donc je vais l'appeler. R comme moi, comme Raphaël. A, H, B comme Basile, A, P comme Patrice. Je répète, le Facebook R, A, H, B, A, P. Voilà, vous trouverez toutes les infos. Merci encore. Et puis Asso&Co, bien, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site rbafm.fr, rubrique émission, page Asso&Co. À bientôt.
RBAFM Auvergne Limousin.